que vous ne trouvez pas ce livre chez les libraires habituels, vous le trouvez avec votre journal habituel, parce que je voudrais qu'il ait la plus grande diffusion.
Alors, vous savez que récemment, on a vu à la télévision, dans l'émission, d'ailleurs, il faut bien dire, remarquable de Patrick Poivre d'Arvor, et puis d'autres, alors je ne vais pas citer tous les noms, mais des bons journalistes qui ont fait une bonne émission de télévision. J'ai d'autant plus de facilité à le dire que quand on avait annoncé cette émission qui s'appelait « Le droit de savoir », j'avais dit « ça sera évidemment une arnaque, parce qu'on aura le droit de rien savoir ». Et la première émission qui avait été annoncée, c'était une enquête sur Le Pen. J'ai dit, tiens, comme par hasard, tu parles, il rate pas l'occasion. Et puis pas du tout, ça a été tout à fait autre chose. Et depuis quelques mois, cette émission est assez étonnante. Elle apporte vraiment des informations. Bon, c'est relativement courageux quand on sait, bon, quand on compare avec les méthodes habituelles de la télévision, qui est un ramassis de larves flasques. Alors là, bon, il y a des choses qui sont simplement normales et qui apparaissent comme des actes de courage formidables. Dans cette émission de la semaine dernière, on a assisté donc à un débat entre Boudarel et M. Beauclerc. Et puis ensuite, on a vu l'auteur d'un livre sur le fisc, qui n'était pas vous, M. Cambazanès, qui
était... M. Tanguyette, oui.
C'est M. Tanguyette, qui était donc, en quelque sorte, votre... pas votre vis-à-vis, mais il appartenait à l'équipe
ça.
Adverse.
Son histoire, c'est l'histoire du bourreau, et moi, je suis l'histoire du torturé.
C'est ça.
Il y a le tortionnaire d'un côté et le torturé de l'autre.
Alors, lui a été écœuré parce qu'on lui faisait faire, a publié son livre, sous un pseudonyme et sous un masque, et puis l'autre jour, il s'est démasqué, il a immédiatement été viré du fisc, mais vous, malheureusement pour vous, vous pouvez pas virer des contribuables.
Et non, malheureusement, lui, il garde son salaire, et moi, je ne peux pas avoir un salaire en me mettant viré. J'en regrette beaucoup.
C'est embêtant. Alors, en tout cas, pourquoi je parle du livre de Tanguyette, dont le nom m'échappe pour l'instant, le titre, c'est ça.
Robert Mathieu. De l'auteur.
Robert Mathieu, son nom d'auteur, et son livre, c'est...
Échec à la... Ça y est, tout d'un coup.
Échec à la dictature fiscale.
Voilà.
C'est paru chez Albin Michel.
C'est ça. Bon.
Alors, lui, c'est un livre qui expose les abus auxquels se livrent les fonctionnaires, certains fonctionnaires du fisc, sur ordre de leur hiérarchie, pour pressurer au maximum les contribuables pour essayer d'en tirer le maximum de fric. Et pour faire du crâne, comme on dit dans la police. Bon. Vous, c'est le contraire. Hein, c'est à partir d'une expérience personnelle ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on est confronté à ces sbires de Charras.
C'est ça. Moi, je pense que si vous avez un contrôle fiscal, il faut d'abord essayer de comprendre si votre vis-à-vis est un garçon honnête. Moi, ça m'est arrivé, je veux le répéter, il y en a des honnêtes. Et s'il est honnête, vous pouvez lui expliquer ce qui vous arrive et... C'est normal qu'il y ait des contrôles. Moi, je ne suis pas un révolté contre le contrôle fiscal, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup, beaucoup trop de petits voyous dans ces milices fiscales, de gens qui sont... D'ailleurs, je vous posais une question. Quand vous aviez 16 ans, est-ce que vous auriez voulu, vous, qu'on vous paye vos études, qu'on vous paye pendant vos études, à condition que vous engagiez toute votre vie d'aller faire pleurer,
toute
d'aller
sa vie,
assassiner...
Toute sa vie, non, 15 ans, disons.
Pendant 15 ans de sa vie, d'aller torturer son voisin? Ah, moi non.
Enfin,
mes camarades de classe qui étaient
comme ça.
Oui, c'est pas du tout des gens sympathiques. Donc vous avez, ce que je veux dire par là, une probabilité que votre contrôleur fiscal soit un petit voyou, une très grande probabilité. Alors ce que je veux mettre en avant, c'est que si vous tombez sur un plus méchant que les autres, vous avez les moyens de vous défendre. Alors je veux d'abord expliquer ce qui m'est arrivé, et je veux surtout, dire aux gens quels sont les moyens pour gagner. Parce que, peut-être que je suis trop optimiste, mais je ne le crois pas, parce que c'est mon exemple, et je vous le donnerai tout à l'heure. Se défendre, ça veut dire gagner. Alors, moi, plus mes entreprises, n'est-ce pas? Parce que je suis directeur d'entreprise, donc je n'ai pas 100% de mes affaires. Mais le contrôleur marron, qui j'appelle El Corazon par dérision, m'a redressé de 1 milliard de centimes, 10 millions de francs. Et aujourd'hui, parce que j'ai discuté avec son supérieur, j'en suis à un redressement nul. C'est-à-dire qu'il me redresse de 200 000 francs, mais il y a 200 000 francs que je n'ai pas déduits de mes revenus. Donc, vous voyez, à partir de zéro, comme il fait bien monter la soupe, hein, comme il fait bien monter la crème, on est parti, je ne dois rien, il m'a demandé 10 millions de francs. Donc je crois que je suis un exemple limite, et les gens, les autres, seront moins limites que moi, et même avec un cas limite comme ça, on peut gagner. Gagner, ça veut dire quoi? Je le répète, ça veut dire ne pas payer, mais moi je vais maintenant attaquer le gouvernement français parce qu'il m'a gêné dans mon travail, j'espère avoir des indemnités, je vais les attaquer à Strasbourg pour les droits de l'homme, et j'espère encore gagner. Ce qui veut dire quoi? Parce que je crois que c'est ça qui est important. Je voudrais dire à tous ceux qui ont un contrôle fiscal pénible de ne pas se désespérer. Ils peuvent gagner. Alors il faut prendre un expert. S'ils n'ont pas les moyens, il faut dire qu'ils en prennent un. Il faut menacer son inspecteur d'aller demander l'interlocuteur départemental. Ça lui fait peur et il réduit ses prétentions. Il faut demander la saisine des tribunaux administratifs. Et il faut en toute occasion ne jamais lui laisser l'initiative des coûts.
Ah, vous savez, M. Gambacedès, je recevais juste avant vous n'étiez pas dans le studio, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je recevais le colonel Masset.
J'ai entendu,
bon.
Oui.
Et maintenant, je vous reçois, vous. Or, je trouve que vous avez un point commun, tous les deux. Et je suis très content que vous soyez venus tous les deux ce soir pour cette émission, parce que ça fait de cette émission une espèce de guide du bon usage de la démocratie en France.
Oui.
Il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays où les choses sont possibles. C'est vrai qu'il y a un totalitarisme mou qui nous menace en permanence. Mais on peut parfaitement résister. On peut résister d'abord en ouvrant sa gueule. Ça, moi, je dis qu'il faut parler. Il faut gueuler. Il faut dire qu'on n'est pas d'accord. Il faut dire que les députés socialistes sont, pas tous, mais beaucoup, des crapules, des voleurs et des malhonnêtes gens. Il faut dire que nous sommes dirigés dans ce pays par un pantin qui est un imposteur. On en a eu la démonstration avec ce que nous expliquait le colonel Masset il y a 2 minutes. Il faut dire que l'administration, pas toute l'administration, mais une certaine partie de l'administration est totalement pourrie, que certains fonctionnaires, pas tous les fonctionnaires, mais certains sont des crapules. Il faut dire ces choses-là, il faut les gueuler. Ça, c'est le travail des journalistes. Ensuite, il faut se défendre contre ces gens-là. Et les institutions permettent de le faire. Se défendre contre ces gens-là, c'est ce que vous, Monsieur Gambacedès, vous faites, vous avez fait, victorieusement. C'est ce que le colonel Masset a fait victorieusement. C'est-à-dire qu'on peut se battre. On n'est pas broyé par le système. On n'est pas en Albanie.
Je vous remercie de le dire, c'est très important.
Personne ne viendra chez vous à 5 heures du matin pour mettre une balle dans la nuque. C'est pas comme ça que ça marche.
Donc pas encore.
Monsieur Figueras, non. La France est un état de droit. Moi, je suis pas du tout pessimiste. Moi, je me suis battu et j'étais menacé. Il y a eu des gens qui ont essayé d'avoir des pressions sur moi. Mais on ne m'a pas mis en prison. Je n'ai pas eu une balle dans la tête, comme vous dites. Non, je suis bien de votre avis. Chaque contribuable peut se défendre. La France est quand même un pays de liberté. Même si on n'est pas d'accord avec les gens qui nous dirigent. Mais je veux que chacun ait le courage de dire « Je peux me défendre, ce n'est pas dangereux pour moi. »
C'est ça. Il n'y a pas de danger physique.
Non.
Et il n'y a même pas, dans votre cas, la démonstration est éblouissante, il n'y a même pas de danger financier, puisque d'un homme mort financièrement, tué par une amende fiscale d'un milliard de centimes, vous sortez complètement lavé et débarrassé de cette amende, ce qui est quand même formidable.
C'est formidable. Alors, je vais ajouter une petite chose. C'est que l'homme qui a voulu m'abattre financièrement, je regrette que lui ne soit pas plus puni que ce qu'il l'est. Ça, si vous voulez, j'essaie d'être perfectionniste.
Oui.
Je trouve que, prendre M. Tanguyet, par exemple, si vraiment il a été renvoyé de sa fonction, je trouve qu'il ne devrait plus avoir de salaire. Parce que moi, qui suis entrepreneur, comme si j'avais un commerce, comme si j'avais une petite entreprise, qui est mon cas... Quand j'ai fermé mon entreprise, parce que je l'ai fermé, quand j'ai eu cette somme énorme qui m'est tombée dessus, il a fallu que je paye des indemnités de licenciement à 5 personnes, n'est-ce pas? Et j'ai payé des indemnités, et je n'ai pas eu, moi, le droit au chômage, puisque je suis patron. Alors, je trouve que la France est un pays de droit, et je vous remercie de l'avoir dit, parce que c'est important de montrer qu'on peut se battre, on ne risque rien, on n'aura pas une balle dans la tête, parce qu'on sera contre les ordres de M. Mitterrand ou de M. Charras. Mais néanmoins... Si vous êtes fonctionnaire, au maximum, on vous demande de ne plus travailler. Si vous êtes un petit propriétaire d'une petite entreprise, ce qui est mon cas, je suis un éditeur et un écrivain, mais je n'ai pas 500 personnes, si vous en avez 5. Quand vous renfermez votre entreprise, vous payez les indemnités de licenciement et vous n'avez pas de droit de chômage. Oui, donc il y a une inégalité quand même.
Je veux dire, si vous êtes entrepreneur et vous êtes à la tête, par exemple, d'une petite entreprise de plomberie, vous envoyez un plombier faire une installation de chauffe-eau chez une vieille dame, Et le lendemain matin, la vieille dame, elle est passée à de patresse parce que le chauffe-eau fuyait. Et bien vous, entrepreneur, vous êtes puni par la justice. Vous êtes puni, condamné sévèrement, et vous pouvez faire de la prison. Mais un magistrat instructeur qui, dans le cadre d'une instruction, prend un violeur ou un assassin et dit, bah, écoutez, monsieur, pendant l'instruction, je vais vous remettre en liberté, le gars sort de prison et va de nouveau tuer ou violer quelqu'un, le magistrat en question ne sera en aucune manière sanctionné. Il y a en France une irresponsabilité totale de la fonction publique, oui, qui ajoutait, au pouvoir démesuré de cette même administration, provoque de véritables catastrophes.
Il y a une impunité chez les contrôleurs fiscaux, comme dans la fonction judiciaire, c'est-à-dire les juges d'instruction, qui est impensable. Impensable. Vous avez bien raison de le souligner, oui.
Alors, je voudrais pas qu'on rentre trop dans le détail de votre livre, parce qu'il faut que, de votre guide plutôt, il faut que les,
ah, je vous remercie, il faut l'appeler
guide, les contribuables lisent. Oui. Mais j'aimerais quand même que vous nous donniez les grandes lignes. Comment ça se passe quand on est soumis à un contrôle? Comment ça se passe brutalement? Et quelle est la première réaction à avoir? Quelle est la première chose qu'il faut faire pour garantir ses droits?
Moi, à mon sens, je crois que c'est généralisable. La première chose qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre si vous avez en face de vous un type honnête ou un pâle petit voyou. Si le type est un pâle voyou, c'est ça qui est intéressant. S'il est honnête, ben, il faut être honnête avec lui. Il faut ne pas lui dire ce que vous allez faire. Il faut aller voir tout de suite un expert et il faut lui tendre des pièges. Parce que votre principale défense, ça sera le fait qu'il va vous redresser pour un propos dans lequel lui s'est trompé. Et seul un expert fiscal peut vous guider sur ce chemin miné qui est celui de le faire tomber dans une mauvaise trappe. Alors, c'est un peu dégoûtant, vous savez, il ne faut pas croire que ça soit agréable du tout.
Oui, mais c'est la guerre, ça, c'est la guerre, c'est sale. La guerre ne fait pas de mort qu'à la télévision, en réalité, oui. La guerre fait des morts.
La guerre, c'est ça, je suis d'accord, bravo. Oui.
Alors, qu'est-ce qu'un expert fiscal? Où est-ce qu'on trouve un expert fiscal?
Alors, je donne l'adresse, il y a une association où il y a toute la liste exhaustive, je crois exhaustive, j'en sais pas trop, enfin une liste importante d'experts fiscaux dans tous les départements et toutes les régions de France. Donc vous avez une liste et vous la prenez, celle le plus proche de chez vous, parce que c'est lui qui viendra chez vous avec le moindre frais de transport.
N'est-ce pas ? Donc première chose, faire appel à un expert immédiatement.
C'est ça.
Sans en prévenir...
L'homme
du fisc.
Ah, surtout. Parce que s'il sait que vous avez un expert fiscal, il va lui déjà prendre les premières précautions. Vous ne dites rien. Et la deuxième chose, je crois que c'est très important, et c'est en même temps psychologique, comme dit M. Figueras, et en même temps factuel, il faut toujours prendre l'initiative. Il faut ne jamais se laisser prendre sur la défensive. S'il est sur la défensive, moi je prends mon exemple. Il m'a demandé la preuve de 240 chèques que j'avais reçus sur mon compte personnel. Je lui ai dit, écoutez, c'est un peu beaucoup. Je vous expliquerai peut-être, c'est un peu long, pourquoi il en a demandé tant. Parce qu'il m'avait mis dedans des fausses trappes. Mais comme il me demandait un travail considérable, je lui ai dit, mais moi je vais faire la même chose. Vous avez le droit, et c'est un exemple que je vous donne, il y en a d'autres, vous avez le droit de lui demander les photocopies des documents qu'il a dans sa serviette. Vous lui dites, monsieur, je suis en contrôle fiscal, je n'ai plus, par exemple, ma déclaration d'impôt d'il y a 2 ans. Pouvez-vous, s'il vous plaît, ça m'est utile pour ma défense, m'en envoyer une photocopie? Alors, de deux choses l'une, ou bien il vous envoie la photocopie, mais il déteste ça, parce qu'il a très peu d'appareils de photocopie chez lui, et il se fait engueuler par ses copains. Mais si pire, parce que vous ne demandez pas uniquement une, vous lui en demandez 5 ou 6, s'il ne le fait pas, vous attendez 2 mois, vous écrivez au Premier ministre, ça s'appelle la commission, la CADA, c'est rue de Constantine à Paris, vous dites, j'ai demandé à un employé de l'État, il y a 2 mois et moins de 4 mois, la photocopie d'un document qu'il avait dans sa serviette, je n'ai pas eu de réponse. À ce moment-là, c'est très embêtant pour lui. Parce que c'est les services du Premier ministre qui écrivent au supérieur, du supérieur, du supérieur, du supérieur de votre imbécile et qui lui dit pourquoi cet imbécile n'a pas répondu. Et le coup est d'autant plus violent qu'il vient de plus haut. Vous êtes de mon avis.
Tout à fait.
Alors il reçoit un bon coup.
C'est 4 jours, 8, voilà. Etc. On connaît.
Voilà. Quand c'est le général, ça fait plus mal que quand c'est le caporal.
Bien sûr. Hein.
Et ainsi de suite. Donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui comprend que vous êtes quelqu'un sur lequel il va rien gagner. eh bien, je vous le promets par expérience, s'il voit qu'il a en face de lui un type qui ne pourra pas plumer, il n'insiste pas trop.
Alors, dernière question, parce que je pense que les auditeurs vont lire votre livre à la suite de cet entretien, parce que c'est dommage que d'ailleurs, quand je dis ça souvent, c'est dommage qu'on n'ait pas la télévision, parce qu'il faudrait qu'ils vous voient et ils comprendraient, quand on vous a en face de soi, on comprend que l'inspecteur du fisc, enfin le contrôleur, quand il arrive, il doit se dire, ah, une mauvaise limonade.
Attends, non, parce que il y a des gens qui me disent qu'au contraire, à la télévision, j'ai un trop bon sourire.
Ah oui, c'est pas gênant, vous savez, les gens qui ont un très bon sourire, c'est
excellent.
Ah bon,
c'est pas des peaux de vache aussi.
Alors, dernière question, comment avez-vous découvert ces trucs-là? Parce que vous nous parliez de la CADA, par exemple, à l'instant. Bon, il faut quand même être ferré à glace sur tous les problèmes d'administration.
Je vais vous dire, c'est très simple, je suis un entrepreneur. Et mon avis, un entrepreneur, c'est un type qui ne dort pas tant qu'il n'a pas trouvé. Si j'avais un café, je ne dormirais pas tant que je n'aurais pas trouvé comment mettre 6 personnes sur le comptoir et non pas 5. Si j'étais plombier comme vous, je trouverais un moyen de faire des soudures en 10 minutes et non pas 5 minutes. Je suis auteur d'économie, mais ce n'est pas ma fonction d'auteur qui fait ça. C'est que je cherche dans toutes les difficultés qui m'arrivent à trouver une solution. Mais croyez pas que je les ai trouvées toutes seules. J'ai passé des nuits à me retourner dans mon lit à chercher la solution. Et pour prendre cet exemple de la CADA, vous avez raison de me donner un exemple précis. J'ai eu une histoire très 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 difficile. Il m'a manqué une facture très importante dans mon dossier et la facture avait disparu. Et moi je suis quelqu'un qui a du nez. Vous savez, je pense que vous, comme aussi, je réfléchis mais surtout je sens les choses. Et j'ai dit, oh l'enfoiré, il me l'a volé ma facture. Donc j'ai tout fait pour la retrouver. Et au début, pour la retrouver, j'ai fait le gentil. Et ça n'a pas réussi. Donc je suis allé voir mon expert fiscal parce que je voulais trouver la solution. Il m'a dit, monsieur, faites comme ça. Donc l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure.
C'est ça. Mais écoutez, le résultat, c'est que vous avez, non seulement vous en êtes bien tiré, mais vous avez eu la détermination, l'intelligence et le courage, il faut dire, parce qu'il faut un certain courage. Là, vous allez au-devant d'un troisième contrôle, à moins qu'il soit carrément dégoûté.
Ah, je pense que je vais droit à la prison, moi, plutôt. Oui. c'est plutôt les oranges dont il faudrait parler maintenant.
Bon, on vous enverra les oranges. Mais, puis, bien d'autres choses. Mais donc, vous avez eu le courage de publier ce guide d'autodéfense contre le fisc. Contrôle fiscal, défendez-vous, les miliciens du fisc, c'est pas la peine de prendre un pistolet. L'arsenal des lois et des textes en France est tellement complet que, vous le démontrez, on peut parfaitement résister en utilisant la loi contre quelqu'un qui vous attaque, en utilisant la loi. Je dirais que là, c'est en quelque sorte à armes égales, chacun sa chance, mais c'est le courage et la détermination qui l'emportent. Et j'ajouterais pour finir que, à mon sens, le contrôlé a un avantage sur le contrôleur, c'est qu'il joue sa vie.
Oui.
Tandis que le contrôleur, lui, il joue une note, il joue une prime. Si vraiment il sent de la résistance, il est forcément moins déterminé.
Si vous saviez à quel point c'est vrai, dès que vous lui résistez, vous sentez le type qui fuit. C'est fou. C'est vraiment comme un carnassier avec un herbivore. Moi, je suis le carnassier, vous comprenez? Il va me bouffer. Alors, j'aboie. Et je le vois comme une vache. Vous savez, les vaches, c'est gentil, les vaches. Mais quand l'herbe est pas bonne, elle va à côté. S'il y a un chien qui aboie, elle mange le morceau d'herbe à côté. Voilà. Il fuit.
Contrôle fiscal, défendez-vous, les miliciens du fisc, d'Olivier Cambacédès. C'est paru aux éditions SGB 9 rue d'Aboukir, Paris 2e. Mais si j'ai bien compris, c'est en vente dans les kiosques NMPP également.
C'est ça, c'est en vente chez les marchands de journaux.
Bon. Alors vous le commandez, vous le demandez chez votre marchand de journaux, et si vous ne le trouvez pas, vous le commandez. Et les marchands de journaux, contrairement aux contrôleurs du fisc, dès que vous leur demandez un document, ils vous l'envoient, vous n'allez pas attendre 2 mois. Merci monsieur Cambacédès, et puis bon courage dans vos aventures fiscales. J'espère que ça va se calmer quand même, parce que je pense que vous êtes plus intéressé par votre entreprise. On va peut-être écouter un petit peu de musique pour introduire mon prochain invité, si j'ose m'exprimer ainsi.
Je te remercie.
Alors, mon cher Jean-Pierre Tardif, avant d'aller plus loin, je vais me permettre de vous tester. Je vais te tester, d'ailleurs, parce que comme on se tutoie dans le civil, il n'y a pas de raison qu'on se tutoie
pour le micro. Pas à la radio.
Je vais te tester, je vais voir si tu es un mozartien sérieux ou simplement un des innombrables mozartiens qui sont nés avec l'année du bicentenaire.
Oui, mais je vais te surprendre, parce que tu sais que je fais une émission à cette radio depuis maintenant 3 ans, et qu'il m'étonnerait fort qu'au cours de l'année Mozart, je fasse une émission sur Mozart. D'abord parce que j'en ai fait les années précédentes, avec le livre d'Henri Guéon, Promenade avec Mozart, et tu as eu la gentillesse de m'écouter 2 fois, et tu m'as vivement complimenté pour ces émissions.
Bon.
Fut enchanté en particulier.
Admirable.
Et il y a du Mozart partout, il y en a au métro Jasmin. Il y en a.
C'est, moi, personnellement, ça m'ennuie moins que quand c'est du Goldman, par exemple, ou du,
oui,
non, du Bruel.
Oui, non, mais on est bien d'accord. Voilà. Il vaut mieux. Non, mais c'est bien évident.
Bon. Je préfère marcher dans du Mozart. Que...
Mais il y a tellement de journalistes qui en parlent partout, et c'est pour ça que je suis là ce soir. C'est parce que je reviens de Prague où j'ai été invité à ouvrir.
Oui, mais attends, tu n'auras pas. Hein. Je veux d'abord que tu répondes à la question.
Oui, non, mais je sais le concerto en la majeure de Mozart.
S'il m'avait dit je ne sais pas.
Concerto pour piano et orchestre.
L'autre jour, je parlais avec l'abbé Wartel dans l'émission de Jean Ferré. Non, c'est pas dans l'émission de Jean Ferré d'ailleurs, c'est dans l'émission de Dan Colin.
Et
j'expliquais que je faisais du latin pour me distraire.
Oui, oui.
Et l'abbé Wartel me darde un regard malicieux.
Et
me dit, comment dit-on oui en latin? Et ben, j'ai dit, toi mon ami, drôlement méchant, parce que c'est très difficile de dire oui en latin. Il y a peu de gens qui savent, puisque ça figure pratiquement dans aucun texte. C'est très rare dans les textes. Il avait essayé de me démontrer que ce que je disais...
Et est-ce que tu as su répondre oui en latin?
Ita. Alors, j'ai essayé de te coincer aussi, il n'y a pas de raison. Parce que si tu m'avais dit, non, je ne sais pas du tout ce que c'est une musique, quoi.
Oui.
C'est de la musique avec un piano, c'est tout.
Non, j'ai pas assez entendu pour savoir qui était l'interprète, quand même.
C'est le concerto en la majeure.
C'est le concerto en la majeure, quand j'étais en 488.
Alors, attends, l'interprète, j'ai essayé de deviner. J'ai pas bien entendu.
C'est peut-être Gesanda et l'orchestre Mozart Seum de Salzbourg.
Voilà, alors disons que c'est ça.
Ça pourrait être.
Quoi, c'est Victoria qui me dénonce. Oh. Non, parce que j'ai fait signe qu'on me passe la
aussi savant que les tasses de
vin. C'est Barenboim.
Doctus cum libro. Alors, c'est.
Boom. C'est Boom.
C'est Barenboim. Barenboim.
Barenboim.
Barenboim. Ouais. Je connais pas ça.
Barenboim.
Donc, c'est. Qui, Barenboim? Non, je connais pas.
Il est passé à la télé hier, moi je
le connais. Ah oui, on le voit beaucoup.
On le revoit à la télévision.
Si vous croyez que je connais tous les gens qui passent à la télé...
Il repasse par la fenêtre.
Fréquente pas n'importe.
Mais à la Bastille, ça sera difficile de passer par la fenêtre.
Donc, mon cher... Alors, arrêtons de dire du mal. Alors, tu es allé en Tchécoslovaquie.
Alors, je suis allé en Tchécoslovaquie. Et alors, je voudrais parler de 2 choses. D'abord, du bicentenaire, de l'ouverture du bicentenaire Mozart. Là-bas, dire tout de même que Prague a été une ville de bonheur pour Mozart, que c'est là qu'il y a écrit Don Juan, que c'est là qu'il y a écrit la Clémence de Titus, que c'est surtout là qu'il y a rencontré Casanova, et que tout ça est absolument passionnant, et j'ai essentiellement parlé de ça dans ma conférence, en essayant de faire rire un peu le public, parce que les autres conférenciers étaient vraiment assez rasoirs.
En quelle langue tu as fait ça?
En français, mais avec des traductions. C'était traduit simultanément. Et je voulais dire 2 choses. La première, c'est que j'ai été surpris par la médiocrité des représentations et de ce que j'ai pu entendre, tant en musique de chambre que en lyrique, avec un Così fan tutte qui était si mal chanté que la cantatrice principale a escamoté 20 minutes de musique au 2e acte. C'est la première fois en 30 ans qu'il m'est donné l'occasion de voir un tel bide.
C'est vrai. Elle a coupé quoi?
Ah ben, elle a coupé tout un air, l'air le plus important de Così fan tutte au 2e acte. Elle l'a carrément pas chanté. Et le duo qui suivait n'a pas eu lieu, ce qui fait que elle devait tomber dans les bras d'un Jules de Fortune et que tout d'un coup on a vu le mariage. Alors plus personne ne comprenait.
Oui, c'est pas... Enfin, on connaît quand même un peu le livret.
On sait bien qu'à notre époque ça va très vite. Oui.
Mais,
enfin...
mais c'était
un peu surprenant.
Qui était cette cantrice, parce qu'on va lui retirer une syllabe pour
on
la
punir.
Alors,
on peut même, je crois que la castratrice, la castratrice de Così fan tutte, eh bien, elle s'appelait Stofenia Kalashkava. Tu vois, c'est un nom facile à souvenir.
Comme ça, nos auditeurs sont prévenus.
Mais
je pense notamment à mes amis grimpés. Si un jour il y a Stofenia Kalashkava,
elle est très jolie. Et j'ai dit au secrétaire des Beaux-Arts de Vaclav Havel qui m'avait invité, je lui dis, il a été très choqué, mais tant pis. Je lui ai dit, elle est au moins la maîtresse du directeur. Parce qu'elle est tellement ravissante et elle chante tellement mal qu'il y a certainement quelque chose qui explique cela. C'est pas possible.
Alors donc, Mozart et la Tchécoslovaquie, en ce moment, c'est pas...
Mozart, Tchécoslovaquie, ça marche pas. Et je vais vous dire pourquoi ça marche pas. Parce que je voudrais aussi parler un peu du pays, parce que j'ai lu ici et là, j'ai même entendu ici, à des libres journaux, des choses un peu optimistes sur la Tchécoslovaquie. Là, je suis quand même entré un peu dans les coulisses du pouvoir. J'ai quand même vu de près, pendant 6 jours, ce qu'il y avait, ce qui se passait. Et c'est pas aussi rose qu'on veut bien le dire, et c'est en tout cas certainement pas blanc.
Quoique.
Ouais.
Parce qu'il y a du rose.
Oui.
Parce que moi, je sais pas, je vais peut-être dire une incongruité monstrueuse, mais tout le monde me dit, Vaclav Havel, c'est un type formidable, c'est un héros.
Non, je crois que lui est un type effectivement formidable. Moi, je l'ai vu, je l'ai bavardé avec lui 5 ou 6 minutes avec un traducteur, c'est un type remarquable. Mais je crois qu'il est complètement débordé.
Moi,
par un pouvoir qui est beaucoup plus, encore, beaucoup plus, comment dirais-je, fort et puissant, et un pouvoir qui est encore très communisant. Enfin, quand on a affaire aux gens de l'administration, ce qui a été mon cas à 3 ou 4 reprises, on se trouve en face de vos pots. Je veux dire que à tous les niveaux, à tous les étages, où que l'on se présente, même dans un hôtel où on reçoit des touristes, je rappelle quand même que on avait dit à un moment donné que les pays de l'Est allaient remettre en vigueur la libre concurrence des choses, etc. Faut quand même préciser qu'en Tchécoslovaquie, il n'y a pas 4 agences ou 6 agences de voyage, il y en a toujours une. C'est la vieille agence de voyage communiste qui s'appelle Tchédok. Et que à ce niveau-là, précisément, dans les hôtels, quand tu es reçu au restaurant, tu es reçu par de véritables cerbères. Moi, j'ai essayé de les faire rire parce que je déteste cette atmosphère qui manque de bonne humeur et d'allant, surtout quand on est en voyage, même quand on est en voyage officiel. Mais il n'y a eu rien à faire. Bon, au niveau des aéroports, c'est la même chose. Au niveau des ministères, moi, je dois dire que comme je suis allé me faire payer 3 francs 6 sous par le ministère de la culture, enfin des beaux-arts de Tchécoslovaquie, c'était vraiment moi qui suis allé là-bas il y a 20 ans, je n'ai pas trouvé de différence sensible. Et au niveau de la vie quotidienne, c'est la même chose. Bon, il y a beaucoup plus de légèreté d'être, je dirais, dans les rues, mais dans les boutiques, il n'y a rien. En 68, quand j'y suis allé, il n'y avait rien. Maintenant, quand on écrit dans les journaux que ça commence à devenir beaucoup plus libéral, qu'on commence à y trouver des choses, moi, j'étais avec un groupe d'amis qui m'avaient accompagné, et je voulais les aider à trouver des disques, par exemple, ce qui est tout à fait... C'est mon métier, tu me diras, de les conseiller, de les aider. C'est pas tant ça qui m'a intéressé que de voir que tout ce qui est appareil de télévision, appareil de haute fidélité, qui sont des produits d'importation allemande, donc relativement chers, ne se vendait absolument pas, et que c'était économiquement, c'est extrêmement catastrophique. C'est un pays qui est au bord de l'abîme. Les gens ont un pouvoir d'achat qui baisse tous les jours parce qu'il y a une vie qui augmente terriblement, parce qu'il y a certainement justement une poussée de boutoir allemande là-dedans qui essaye de s'infiltrer. Et si pour nous, Français, la vie est pour rien, à condition évidemment de ne pas aller dans ces hôtels de grand bazar, genre Novotel. Mais si on vit comme les Tchèques, on va au restaurant pour 15 francs. Même pas, pour 12 francs. On fait le tour de Prague en taxi pour 40 francs. Je veux dire, il y a un pouvoir d'achat qui est nul. Le métro coûte 10 centimes.
Marque à Paris, tu peux... Parce que quand tu fais le tour de Prague, tu reviens d'où tu es parti.
Oui.
Et à Paris, pour moins de 40 francs, tu peux rester sur place.
oui, ah ben, tu attends. Par exemple, voilà. Oui. Ah. 5 minutes. Oui.
Donc,
bon, ça, c'est la première chose.
C'est pas tellement ça, quoi.
C'est pas ça. Non, c'est pas la première chose. Et ça m'a profondément, comment dirais-je, pas déprimé. Ça n'ira pas jusque-là. Mais j'ai quand même été très, très peiné par la pauvreté de la population. Vraiment, les gens sont très, très pauvres. Ils n'y respirent pas encore vraiment de la liberté, d'abord. Ça se sent. Alors, il y a quelques manifestations sur la place Venceslas, alors des petites manifestations syndicalistes, mais c'est très surveillé, et puis il n'y a pas grand monde. Il y a 50 mecs qui sont là avec une banderole, mais enfin, c'est vraiment rien. J'ai assisté à deux manifs comme ça, c'est vraiment... Et on a l'impression qu'en 5 minutes, on étouffe les types et on les embarque. Enfin, il n'y a pas... On sent pas cette liberté, on sent pas non plus ce bonheur de vivre qu'on aurait pu espérer après les fariboles de la perestroïka.
Donc, on n'ira pas passer nos vacances en
Tchécoslovaquie. Si t'es fauché, si.
Ah oui.
Et puis d'abord, parce que
j'irai en vacances en Tchécoslovaquie.
C'est une des plus belles villes d'Europe, avec Venise, c'est une splendeur, et que l'adjoint du secrétaire à la culture qui m'a baladé un peu partout m'a dit que pour 1000 francs dans le mois, il me louait un palais 18e de 5 ou 6 pièces. Mais il faut y aller entre copains, parce que les salles de bain et les sanitaires laissent un peu à désirer. Mais les maisons sont extraordinaires. Bon, alors pour en revenir à Mozart... Ce qu'il y a d'extrêmement grave aussi, et ça c'est, s'il faut dénoncer ça, parce que je ne fais que le dénoncer dans mes émissions, mais il faut le dénoncer aussi à un libre journal, devant Serge de Bekech, c'est la dictature des impresarios. Je m'explique. Si j'ai voulu faire ce petit préambule rapide sur Prague, j'espère qu'il a été rapide, et du pouvoir d'achat très faible, il faut savoir qu'un chanteur de l'Opéra de Prague est payé rien du tout. Enfin, un type de la troupe.
C'est peut-être pour ça qu'il coupe 20 minutes.
Non, c'est pas pour ça. C'est parce que moi, je l'ai appris après en bagdodant dans les coulisses et en bavardant avec un interprète, avec les uns et les autres. C'est parce que dès qu'il y a une belle voix, dès qu'il y a un chef d'orchestre de talent, les Américains le piquent. Ils s'en vont. Quelqu'un comme Joseph Souk, par exemple, qui est un violoniste de grand talent et qui est le petit-fils de Dvorak, c'est pas n'importe quoi, ni n'importe qui, et qui était là pour les fêtes du bicentenaire, attiré par le dollar américain. Certes, c'est un type très bien, parce qu'il revient 3-4 fois par an dans son pays, il donne des concerts avec le Quatuor Smetana, c'est quand même un type qui est fidèle à ses racines. Mais je le cite parce qu'il est ultra connu des auditeurs mélomanes, mais il y en a comme ça des quantités. Et les impresarios américains qui font Salzbourg, qui font Bayreuth, eh bien, ils passent l'hiver en Tchécoslovaquie, à Brno, à Prague, et lorsqu'ils voient un chanteur de grand talent, ils lui proposent à ce moment-là un pactole terrible, et le type s'en va. Alors je crois que c'est très inquiétant, parce que c'est des pays où il reste ce que nous n'avons plus, nous, en France ou en Europe. Il reste des troupes de chanteurs qui sont accrochées à leur... ils peuvent pas faire autrement, les pauvres, ils crèveraient. Alors ils sont bien obligés d'être là. Mais dès qu'une voix ou un chef prend vraiment une réelle expansion internationale, il ne reste pas en place. Et ça, c'est grave. Voilà.
Eh bien, écoute, je pense qu'ils ont quand même d'autres préoccupations plus urgentes là-bas, non ?
Ah, tout à fait.
Parce qu'à mon avis, on peut...
Tout à fait, mais ils ont, attention, ils vivent beaucoup du tourisme.
Oui.
C'est encore une fois, c'est la seule ville de l'Est qui n'a pas été bombardée pendant la guerre de 40-45. C'est absolument intact. Donc, ils comptent beaucoup sur le tourisme. Et l'année Mozart, pour eux, c'est quand même extrêmement important. Mozart a vécu, a passé des journées, des mois entiers à Prague. Il y a écrit des œuvres magnifiques. Il y a écrit Don Juan, quand même. Enfin, ouais. C'est l'œuvre la plus célèbre de Mozart. Alors, c'est quand même embêtant de se penser qu'on risque au mois de novembre, où je suis à nouveau invité, je vais retourner là-bas, assister à un Don Juan qui va être chanté par des padelles. Moi, je suis quand même... c'est quand même inquiétant.
Alors, un auditeur nous dit, l'agence Tchédoc existe depuis très longtemps, elle n'était pas communiste. J'ai 80 ans, j'ai eu affaire à elle dans les années 30. C'est donc une agence de tourisme.
Ah oui, sans doute, oui, mais enfin, je voudrais bien savoir entre 47
et... Qu'est-ce qu'elle a été ? Elle n'était pas avant, c'est certain.
Et puis alors, sois gentil de répondre. En deux mots, que pensez-vous de la flûte enchantée sur scène, filmée par Ingmar Bergman?
Beaucoup de bien.
Chantée, oui. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça admirable.
Mais admirable. Parce que ça n'est pas du cinéma-opéra. Voilà. C'est de l'opéra qui a été filmé avec une caméra. C'est très différent.
Oui, c'est quand même un grand Ingmar Bergman.
Oui.
Dans la première partie. La deuxième, c'était un peu plus
ennuyeux. Oui, c'est un petit peu...
Les fraises sauvages, la source, tout ça, c'était bien beau.
C'est un immense...
La source, c'est sublime.
C'était bien beau. Après, les communiantes, c'était plutôt... Non, ça va aller comme ça.
Eh bien, je vous remercie.
Merci, docteur. Au revoir Jean-Pierre. Alors vous avez entendu Jean-Pierre Tardy, vous pouvez l'entendre sur cette même radio. Voilà, tous les deux lundis. Et c'est la meilleure émission lyrique de toutes les radios du monde, pratiquement. Quand il parle de lyrique, il est lyrique. Voilà. Merci encore Jean-Pierre Tardif. Et ben maintenant sans musique, non, parce qu'on ne va pas obérer le temps qui nous reste. Je me tourne vers André Figueras. André, vous avez fait œuvre d'historien une fois de plus. Vous êtes en train de faire œuvre d'historien. Mmh. Et vous vous préparez à publier un ouvrage dont le thème, sinon le titre, est 11 amiraux dans l'ouragan de l'histoire. Alors il s'agit des amiraux Platon, Abrial, Auffan, Bléau, Esteva, Descoux, Robert, Laborde, Desrien, qui entre 40 et 44 ont exercé dans le gouvernement de Vichy de très importantes responsabilités. Ils ont été ministres, ils ont été responsables des territoires d'outre-mer, ils ont été naturellement responsables de la marine, et qui ont, à la Libération, payé ce service qu'on leur avait demandé de rendre à la France, un prix absolument effroyable. Alors, vous avez trouvé des documents, vous avez été mis en présence et en possession de documents que j'ai vus, qui sont plus qu'émouvants, qui sont déchirants. Il s'agit de la correspondance privée de ces amiraux en prison.
Exact. D'ailleurs, je dois dire que tout au long de ma vie, il m'arrive comme cela des choses qui me tombent, pour ainsi dire, du ciel, et qui m'apportent des éléments inattendus sur des domaines que je connais mal et à partir desquels je m'informe, je complète ce que j'ai pu obtenir et j'arrive à des résultats surprenants. Car il existe encore, mais cela diminue chaque jour, il existe des gens qui possèdent des documents ou qui ont des témoignages à fournir. Ces gens-là, naturellement, sont de moins en moins nombreux. Je dois dire que j'ai ainsi un grand remords. Il y avait un vieil homme qui habitait dans l'arrière-pays niçois et qui périodiquement m'écrivait « venez me voir vite, parce que je n'ai plus longtemps à vivre. J'ai été témoin de la reddition du général de Gaulle à Verdun et je voudrais vous le raconter. » Et puis je n'avais pas l'occasion d'aller à Nice. J'ai tardé, et quand je suis enfin descendu sur la Côte d'Azur, ben cet homme était mort. J'ai perdu là un témoignage essentiel. Il y a comme cela des documents qui sont livrés ensuite à des héritiers qui s'en moquent ou qui n'en savent pas la valeur, qui les perdent. Il y a des gens qui ont des témoignages et qui ne les donnent pas. Je sais que le général Koenig, à son lit de mort, a dit « j'ai cru que j'aurais le temps ». Il avait des choses très accablantes pour De Gaulle à dire et à écrire. Il avait cru qu'il aurait le temps et puis la mort l'a pris. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui même, j'ai reçu du capitaine de corvette Fournier, qui était l'officier d'ordonnance de l'amiral Marquis. L'amiral Marquis était préfet maritime à Toulon pendant la guerre. Et le commandant Fournier me raconte une scène qui s'est passée à bord du cuirassé Strasbourg, lorsque le maréchal Pétain est venu passer une revue navale à Toulon. Et dans le carré du Strasbourg, un jeune journaliste qui était là et qui avait de l'audace pour l'époque, dit tout d'un coup au maréchal, « Monsieur le maréchal, ça se passait à fin 40, monsieur le maréchal, est-ce qu'on peut vous demander ce que vous pensez du général de Gaulle ?» Et l'amiral Darlan qui était là, mais scandalisé, épouvanté, essaye de faire taire ce confrère. Et le maréchal lève les mains et lui dit « laissez ». Et voici ce que répond exactement le maréchal, et cet officier de marine l'a noté tout de suite après l'incident. Voilà ce qu'a dit le maréchal. « Mon jeune ami, votre question n'est pas du tout indiscrète, et j'y répondrai même avec le plus grand plaisir. D'abord parce que je connais bien le général de Gaulle, je l'ai compté plusieurs fois parmi des officiers de mon état-major, il a été mon élève à l'école de guerre. Nos deux familles se connaissent bien. Je suis, au moins moralement, le parrain de l'un de ses fils. » Curieux, ça. « Bref, puisqu'il était nécessaire que le drapeau français continue à être représenté auprès des alliés jusqu'à l'arrivée des étoiles, dit-il en levant légèrement ses yeux bleus vers le ciel, je suis a priori heureux qu'il s'en soit chargé. Malheureusement, j'ai une crainte. Connaissant son orgueil et sa vanité, j'ai peur que d'une affaire strictement militaire, il en fasse une affaire politique, auquel cas la France sera divisée en deux, il y aura beaucoup de pleurs et beaucoup de sang. Fin 40, le maréchal avait bien compris. Alors, pour en venir à nos amiraux, quelqu'un donc m'a remis effectivement ses correspondances. J'avoue que, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de Français, je n'étais pas très au courant de l'existence de ces amiraux, très vaguement. Et je me suis trouvé en face de cette correspondance que j'ai eu quelquefois du mal à déchiffrer, car elle était écrite sur le papier de la détention, un papier très mauvais qui buvait une encre qui elle-même avait tendance à s'étaler. Ensuite, c'était quelquefois écrit vraiment en patte de mouche. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai fait un petit peu mon Champollion, j'ai déchiffré ces lettres une à une, et j'ai été stupéfait de ce que j'ai découvert et de ce que j'ai appris, qui complétait beaucoup de choses que je savais déjà, mais qui m'ouvrait de nouveaux horizons. Et je dois dire en particulier qu'en ce qui concerne l'amiral Esteva, de qui la correspondance est la plus importante et aussi la plus émouvante, je suis, si je peux m'exprimer de la sorte, devenu son ami à titre posthume, parce que j'ai découvert là un personnage tout à fait étonnant, tout à fait remarquable. Et il m'est arrivé, au fond, alors avec 50 ans presque de décalage, et par-delà la mort, la même aventure qui m'était arrivée plus récemment avec le général Salan. Je ne connaissais pas le général Salan avant son incarcération. Je l'avais vu une fois à une conférence de presse à Alger, mais enfin, c'était quasiment anonyme. Et quand le Salan a été prisonnier à Tulle, je suis devenu son ami par correspondance. Et même mon fils Olivier est devenu son filleul. Enfin, il y a eu vraiment, si je puis dire, une liaison. Eh bien, cette amitié qui s'est faite in vivo avec Salan, je l'ai faite posthumément, en quelque sorte, avec Esteva. Et ça m'a beaucoup bouleversé, et j'ai approfondi, j'ai cherché à en savoir davantage sur ces personnages. Je suis allé aux archives de la marine, où j'ai d'ailleurs, je dois dire, été parfaitement bien reçu par l'amiral Kessler, qui est le directeur des archives de la marine, et j'ai approfondi ces choses. Et alors, je dois dire que c'est un chapitre de plus à ajouter aux ignominies qui se sont produites à la Libération.
Alors, André, pardonnez-moi de vous interrompre.
Je vous en prie.
Et non pas de vous couper, comme faisait remarquer un auditeur qui dit que c'est quand même pas tout à fait la même chose.
Non, bien sûr.
Donc, pardonnez-moi de vous interrompre. Mais j'ai dit tout à l'heure que vous étiez un authentique résistant. Alors, je sais que ça vous irrite un peu quand on dit ça, quand on parle de ça.
Non, mais enfin, ça me paraît lointain.
Voilà, ça vous paraît lointain. Mais je voudrais vous demander de faire un effort de retour sur vous-même et d'essayer de retrouver l'état d'esprit dans lequel pouvait être le jeune homme sortant de la résistance, qui avait combattu avec toute sa foi, avec tout son enthousiasme, quand en 1945, il a été le témoin de l'épuration.
Je n'ai pas été beaucoup le témoin parce que je me trouvais aux armées. J'ai fait la campagne de France, revenant d'Afrique du Nord où je m'étais évadé, où j'étais devenu parachutiste. J'ai fait la campagne de France jusqu'au mois de septembre 1945. Par conséquent, je n'ai pas vécu les scènes de la libération. Ce n'est qu'après que j'ai appris les choses qui s'étaient produites et que par conséquent j'ai été de plus en plus horrifié, épouvanté, et que, comme aurait dit l'autre, je n'ai pas voulu cela, que si j'avais su qu'on devait aboutir à cela. Je me rappelle un jour dans un dîner-débat avec Georges Bidault, où j'avais dit, moi, si c'était à recommencer, ben, j'aurais pas voulu être résistant. Et Bidault m'avait dit, mais qu'est-ce que vous auriez été? Évidemment, c'était une question assez astucieuse et à laquelle j'étais un peu embarrassé pour répondre. Mais il est évident que, quand on voit ce qui s'est passé, alors là, je voudrais, si vous me laissez un moment, vous dire un peu ce que j'ai appris. Voilà, par exemple, pour commencer, l'amiral Abrial. L'amiral Abrial était, lorsque la guerre s'est déclarée, il était commandant Nord, de la marine du Nord. Et c'est lui qui a assuré toute l'évacuation de Dunkerque. Je ne sais pas si vous vous représentez ce que ça peut avoir été. Lorsque cette poche de Dunkerque était entièrement fermée par la Wehrmacht et que les Stuka bombardaient, et que les Anglais envoyaient surtout des embarcations pour évacuer les troupes anglaises, et Abrial a réussi tout de même à faire à peu près évacuer toutes les troupes françaises qui se trouvaient là, et lui-même ensuite, au lieu de filer, il aurait pu après ça se dire « je file », il est allé à Cherbourg avec ses hommes, avec ses matelots, avec ses bateaux, il a été fait prisonnier, et puis il a été libéré quand même, Darlan avait besoin. On se demande pourquoi il y avait tant d'amiraux autour de Vichy. Vous savez que c'est Maurice Martin Dugard qui a lancé la formule Vichy, Société protectrice des amiraux. Mais il est évident que Darlan, quand il s'est trouvé chef du gouvernement en 40, il a pris des gens qui connaissaient, en qui il avait confiance, et qui n'étaient pas des politiciens. Et on remarquera d'ailleurs que ces amiraux, dont ça n'était évidemment pas le métier d'être ministre ou gouverneur, se sont très bien tirés d'affaires.
Probablement parce que c'était une tâche plus facile que celle qu'ils accomplissaient d'habitude.
Peut-être bien. En tout cas, Abrial a d'abord été gouverneur général de l'Algérie, et puis lorsque Auffan a démissionné du ministère de la Marine au moment du sabordage de Toulon, Abrial a accepté la tâche fort amère de prendre sa succession parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et là, il faut poser le problème de base. Au procès de l'amiral Esteva, auquel je vais venir dans un instant, qui a été le premier procès devant la Haute Cour de justice, ce qui explique qu'Esteva n'a pas eu de chance et qu'il a écopé au maximum, le procureur général Mornay a posé la question de la façon suivante. Il a dit il aurait beaucoup mieux valu un Gauleiter que Pétain. On remarquera en passant que Mornay, du moins, a été vice-président de la commission de révision de naturalisation jusqu'en juin 44. Donc il s'est accommodé pas mal du régime de Vichy. Il a naturellement prétendu que c'était à la demande des Israélites, comme il disait, de façon à les protéger. Parce que quand les autres protégeaient des Juifs, c'était par esprit de trahison, tandis que lui, c'était très bien. Bon, le problème était là, effectivement, Pétain ou un Gauleiter. Et tout le problème, d'un bout à l'autre, se trouve là. Et quand on parlera, si nous avons quelques instants, du sabordage de la flotte, on reviendra toujours à ce problème. Le problème de l'armistice et le problème de la protection que Pétain assurait aux Français. Une protection qui a été évidemment s'amenuisant, mais qui tout de même a existé. S'il y avait eu un Gauleiter, qu'on fut occupé, etc. Mais il a tout de même adouci, et du reste, les Français l'ont très bien senti, y compris les Juifs. Il ne faut pas oublier que le grand rabbin est allé plusieurs fois à Vichy remercier le maréchal de protéger ses congénères. Alors donc, Abrial, pour revenir à lui, Abrial, ce héros de Dunkerque, va être arrêté à la Libération, et on ne va pas faire de douceur envers lui, parce que on pourrait dire « ces gens ont eu une activité politique que nous jugeons condamnable, nous prenons des sanctions contre eux ». Bon, à la rigueur. Mais de là, à les traiter de la manière dont ça a été fait, Abrial est envoyé à Fontevraud. Fontevraud, vous savez, cette admirable église et monastère que Napoléon a transformé en maison centrale. Abrial est envoyé à Fontevraud et voici ce qu'écrit quelqu'un de sa famille. À son arrivée, il a été rasé des pieds à la tête, puis habillé en bagnard. Jusqu'au lundi, c'est-à-dire depuis le mercredi précédent, il est resté dans les quartiers cellulaires avec deux anciens préfets régionaux. Ensuite, il a commencé sa véritable vie au milieu des prisonniers de droit commun. Le directeur de Fontevraud a assuré qu'il ne travaillerait pas aux chaises, étant donné son âge. Il sera sans doute aux écritures dans un bureau. Le régime est le suivant. De 7h à 19h, travail, avec cours arrêt pour le déjeuner dans une salle commune. Puis ensuite, 12 heures de dortoir, empuantis par les tinettes immondes. Là, ils couchent dans un lit en bois, sur une vague paillasse crasseuse. Les lits sont disposés sur 2 étages. Il n'a pour se laver qu'une baille d'eau, commune à une dizaine de détenus. De plus, interdiction de parler, c'est le régime intégral de bagnard qui lui est appliqué. Je répète qu'il s'agissait du héros de Dunkerque, de même que Pétain était le héros de Verdun. Alors c'était tout de même des choses dont on aurait peut-être pu un peu se soucier, même si on voulait critiquer leur action politique, on n'avait pas à les traiter de cette manière. Après ça donc vient Esteva qui, je le répète, passe le premier devant la Haute Cour de justice. Alors il s'agit de montrer tout de suite qu'on a des intentions sévères vis-à-vis du régime que l'on vient de remplacer, et on va reprocher à Esteva d'être resté à Tunis, comme Pétain est resté à Vichy, dans la même question. Et il va s'expliquer dans cette correspondance sur la manière dont les choses se sont passées. Parce que quand les Américains ont débarqué en Afrique du Nord, lui, Esteva, qui était en contact avec Murphy, le représentant de Roosevelt, avait expliqué qu'il fallait débarquer aussi en Tunisie, parce que sinon les Allemands allaient immédiatement s'y installer et créer une zone de résistance dangereuse. D'ailleurs, je publie dans mon livre une lettre de l'amiral Cunningham, qui était le commandant en chef anglais en Méditerranée, une lettre que l'amiral Cunningham a écrite à Esteva pendant qu'il était en prison, le 5 octobre 1957. « Mon cher amiral, j'ai reçu votre lettre du 18 septembre, lue avec grand intérêt et sympathie pour votre exposé personnel des événements où pendant la guerre vous fûtes en cause. Laissez-moi vous certifier, amiral, que pour ma part, je n'ai jamais douté de votre loyauté envers la cause des Alliés. Nos relations suivies de 1937 à 1940 m'ont convaincu que vous êtes un homme très compétent et honorable, dont la préoccupation principale a toujours été le service de son pays. Il est fort à déplorer qu'en novembre 1942, les débarquements alliés en Afrique du Nord ne se soient pas étendus à l'Est. J'avais pour ma part souligné l'importance de débarquer en Tunisie de façon à pouvoir immédiatement y épauler les autorités françaises. Vous connaissant, j'étais certain que les Alliés auraient été les bienvenus et que vous auriez été heureux de saisir l'occasion de reprendre la guerre aux côtés des Alliés. J'ai toujours été certain qu'à cette époque en Tunisie, vous agissiez en sous-main. Je vous porte la plus profonde sympathie et j'espère que le moment n'est pas éloigné où l'on décidera votre mise en liberté. Bien à vous, Andrew Cunningham. Et je dois dire que Murphy et Eisenhower ont envoyé également des témoignages du même genre, qui tout de même auraient dû avoir du poids, et dont on n'a rien fait, car Esteva est resté en prison pendant 6 ans, et on ne l'en a sorti comme Pétain qu'au moment où il était presque mourant. Mais ce qui est intéressant aussi dans sa correspondance, je ne peux pas vous en lire tout maintenant, bien sûr, mais étant donné les événements récents dans le Golfe et la manière dont a agi l'armée américaine là-bas, il est assez intéressant de voir ce que Esteva pense de l'attitude des Américains au moment du débarquement en Afrique du Nord. Il dit « J'ai tenu tête à Rann, Rann c'était le représentant du Reich à Tunis, à ses collaborateurs et aux Tunisiens qui, le bec en tête, accusaient les Alliés et les Français d'Algérie de bombarder exprès les populations musulmanes pour les massacrer dans un désir ignoble de représailles inexplicables. Je me suis dressé contre cette odieuse accusation. Les erreurs de visée, l'ignorance des équipages américains, leur inaptitude étaient amplement suffisantes pour expliquer les destructions de nos villes, Bizerte, Sousse, Sfax, bien des quartiers de Tunis et tant d'autres agglomérations moins étendues. Triste besogne que les opérations paraissaient justifiées, mais qui n'ont pas fait grand mal aux gens de l'Axe, ni à leurs plans ou mouvements. C'est seulement en février 43 que les sous-marins et avions de Malte ont commencé à détruire systématiquement les navires qui ravitaillait et approvisionnait les troupes de von Arnim. Les Américains n'ont fait que peu de dégâts pour leur compte, les aviateurs n'ayant pas terminé leur apprentissage. Le général Eisenhower, dans son rapport sur les opérations en Europe du 6 juin 44 au 7 mai 45, avoue que c'est seulement en mars 45 que les forces aériennes alliées sont arrivées à combiner leurs mouvements avec ceux des troupes au sol d'une manière efficace. Et il ajoute ceci, qui est tout de même fort symptomatique. Nos amis et alliés ont bien su, quand ils ont bombardé nos ports, en 44 notamment, ce qu'ils faisaient. Les ouvrages et établissements, les arsenaux, les bassins, les appareils et l'outillage, les remorqueurs et engins de servitude ont subi des dommages tels que leur construction et leur emplacement dans les ports de guerre ou de commerce de tout ce qui a été détruit, dans les chantiers aussi privés ou d'État, dureront longtemps et nous coûteront des sommes qui auraient été mieux employées ailleurs. Voilà, c'est une accusation qui est quand même assez sérieuse. Bon, je ne peux pas, alors, encore une fois...
Ces correspondances, elles n'ont jamais été publiées, elles sont totalement...
Non, ben bien sûr, elles sont tout à fait des correspondances privées. J'ai d'ailleurs, je me suis d'ailleurs posé la question, est-ce que je les publie ou pas? Parce qu'au fond, elles n'ont pas été décidées, n'ont pas été écrites pour cela. J'ai résolu la chose de la façon suivante. Je me suis dit, j'en expurge, pour ainsi dire, tout ce qui est intime, tout ce qui touche aux familles, tout ce qui touche aux questions trop personnelles. Pour le reste, je trouve que ce sont des documents d'histoire que l'on n'a pas le droit de laisser disparaître, que l'on n'a pas le droit d'ignorer. Et dans le cas d'Esteva, encore une fois, c'est celui dont j'ai le plus de correspondance, il faut aussi révéler une personnalité tout à fait inattendue. Bon, je sais que dans la marine où il règne un certain humour acerbe dont j'en me suis aperçu. Alors on disait, Esteva n'a pas connu l'amour, un tel autre n'a pas connu la mer, un tel autre qui est resté à un petit grade n'a pas connu Darlan, etc. Mais en même temps, ses camarades avaient tout de même surnommé Esteva le saint de la marine. Et le fait est qu'il y a dans sa correspondance la révélation d'une véritable âme mystique. Je ne vous cite que ce court passage qui est caractéristique. Dieu m'a guidé, et si je suis dans un état qui paraît une malédiction, qui est une épreuve odieuse, il m'a imposé le tourment de cette retraite. Je m'interromps pour dire que Esteva lui avait été envoyé à Clairvaux, c'était pas mieux que Fongombeau, pour me faire comprendre le néant de ce qui, aux yeux des hommes, paraît être le maximum de la satisfaction. Honneur, titre, service rendu, distinction de toute nature, mérites éclatants, gloire terrestre, les objets de l'ambition humaine ont peu de valeur, sont fragiles, et la fidélité au Dieu Tout-Puissant n'est que le seul bien auquel ne peut attenter la méchanceté des hommes. Personne ici-bas ne me privera de l'amour que j'ai pour lui, pour mes frères de misère qu'il m'a donné l'ordre d'aimer. Il m'a permis de sauver nombre d'entre eux, et de certains je n'ai été l'objet en échange que d'ingratitude, même de persécution. Ma seule espérance est de me faire dire par le juge qui nous donnera le rang auquel nous aurons droit pour l'éternité que j'ai été un bon et fidèle serviteur.
C'est assez étonnant.
C'est remarquable. Et il y a de nombreuses pages de ce ton. Je ne veux pas naturellement vous lire tout.
Alors, ce livre qui me paraît très avancé...
Oui, il sort à la fin du mois.
Il sort à la fin du mois.
Ce sont les épreuves, là.
Donc, il sort à la fin du mois.
J'ai les épreuves, là, sous les yeux, oui.
Sous le titre « 11 amiraux dans l'ouragan de l'histoire ». Et il sort aux éditions André Figueras.
Bah oui, comme toujours. Comme toujours.
Quel est de tous ces amiraux, en dehors d'Esteva, pour lequel vous nous avez dit que vous aviez eu une espèce de...
Ah oui, une révélation d'abord. Oui.
Quel est celui qui vous paraît avoir été traité avec le plus d'injustice par l'histoire?
Bah, ils en sont plusieurs, parce que j'ai encore quelques moments pour parler des autres.
Il y a la Borde, probablement.
Oui, il y a la Borde, il y a le cas de Platon, d'abord. Oui, Platon était un personnage apparemment assez difficile, qui n'avait pas beaucoup d'amis. Et il avait été chargé dans le gouvernement de Vichy de s'occuper des sectes. C'était évidemment très dangereux. Et comme Laval, lui, je crois, avait pas mal d'amis francs-maçons, c'était un vieux politicien, à un moment donné, il a trouvé que Platon était gênant dans cette affaire, et il l'a assigné en résidence en Dordogne. Alors la Dordogne, aux approches de la Libération, c'était les grands maquis rouges espagnols. Et naturellement, ils se sont emparés de Platon, et selon les informations que j'ai obtenues sur place, parce que c'est une région où l'on parle encore très peu, et on a encore peur. Selon ces informations, car il y a toujours un mystère sur la mort de Platon, on sait qu'il a été tué par le maquis, mais selon ces informations, il a été écartelé avec des tracteurs. Vous voyez, c'est la modernisation de la mort de Damien.
C'est Damien, oui.
Il y a un autre amiral qui a été très malheureux, c'est Dérien. Dérien commandait Bizerte, commandait la flotte à Tunis, à Bizerte, sous Esteva. Et quand les Allemands sont arrivés, il avait là quelques vieux bateaux et quelques matelots. Les Allemands lui ont dit, ou vous nous livrez tout ça, ou on écrase tout sous les bombes. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Bon, il a cédé pour ne pas faire tuer tous ces hommes. Et il est tombé tout de suite entre les mains des gaullistes. Alors il a été condamné, enfermé dans un bagne indigène. Tout ça est plein de délicatesse, vous voyez. Pour des gens qui avaient tout de même été des marins admirables, qui avaient été l'honneur et la gloire de notre armée de mer. Et quand il a été aveugle et quasi mourant, on lui a donné une suspension de peine, ce qui lui a permis, 10 jours après, de mourir à l'hôpital. C'est très affreux. Bon, alors il y a Auffant. Auffant est un cas plus agréable, parce que Auffant, d'abord, je l'ai connu, c'était un homme merveilleux. Et il était un peu plus jeune. Auffant, lui, n'a pas été arrêté. Le maréchal Pétain l'avait chargé de transmettre en quelque sorte ses pouvoirs à De Gaulle, de façon qu'au lieu qu'il y ait une opposition et une espèce de guerre tout de suite, ça se fasse au contraire dans une sorte de légalité, de façon que l'union des Français puisse avoir lieu. On a fait savoir à Auffant que s'il se présentait rue Saint-Dominique, il serait immédiatement arrêté. Il s'est dit, ça ne sert à rien de me faire arrêter, et par conséquent, il est resté tranquillement dans un coin où on ne l'a pas beaucoup cherché. On ne l'a pas beaucoup cherché parce que c'était un homme très intelligent, très pugnace, et qui avait un don d'expression remarquable. Il a d'ailleurs écrit d'excellents livres. Et il avait fait comprendre que s'il comparaissait, il dirait des choses. D'ailleurs, il a publié à ce moment-là, sous le manteau, une petite brochure intitulée « Histoire de mes trahisons », où il mettait en cause, en particulier, les gens qui s'étaient débrouillés, qui étaient passés d'un bord à l'autre, comme Missoff ou Le Meunier. Et il signalait assez acidement leur virage, tout en prenant avec beaucoup de vigueur et de courage la défense de la marine dans l'ensemble, et en expliquant qu'elle avait beaucoup contribué à sauver les Français au point de vue du ravitaillement, car elle assurait le contrôle, la protection des convois qui arrivaient. Et il explique que ça n'était pas du tout, ces convois n'apportaient rien qui servit aux Allemands, car les Allemands avaient pour une fois pour toutes déterminé ce qu'ils voulaient prélever sur la France, et s'il en arrivait un peu plus, ce plus ne leur allait pas, ce plus allait aux Français. Bon. Je passe, vous trouverez dans ce livre toutes sortes de choses, de citations de l'amiral Auffant. Alors, nous arrivons, vous en parliez tout à l'heure, nous arrivons à l'amiral de Laborde. L'amiral de Laborde est un de ceux dont le cas est le plus controversé. D'abord, apparemment, lui aussi, c'était un personnage assez difficile. Je crois que beaucoup de ses camarades ne l'aimaient pas. Bon, il est évident qu'il était apparemment en opposition avec Darlan, pour des raisons que j'ignore, et il était certainement très anglophobe. Mais le problème du sabordage de la flotte est celui dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que l'on maintenait l'armistice, qui était en partie une fiction, évidemment, qui s'effritait au fur et à mesure, mais dont tout de même il restait quelque chose. Il y a deux problèmes. Il y a le problème de l'obéissance. L'obéissance, et je vais vous citer un cas plus récent, en 1961, le capitaine de vaisseau Picard d'Estellan, qui commandait le Surcouf, reçut l'ordre de De Gaulle de tirer avec ses gros canons de marine sur Bab el-Oued. qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour un marin, l'obéissance est une chose absolument fondamentale. Et je dis en ouvrant mon livre, tout capitaine de bateau, tout commandant de navire qui accepterait à son bord l'intrusion des principes démocratiques serait coupable de ce qu'on appelle en droit maritime de baratrie de patron, c'est-à-dire qu'il ferait le nécessaire pour perdre son bateau. Car un bateau sur lequel on discute est un bateau qui va couler. Alors qu'a fait le commandant Picard d'Estellan? Eh bien, il ne voulait pas désobéir, il ne voulait pas obéir. Et il a répondu, l'ordre n'a pas été compris par les officiers ni l'équipage. C'était très intelligent. Bon. L'amiral de Laborde, il avait d'abord à obéir, et pas à discuter. C'est comme ça. Et secondo, supposons qu'il ait désobéi parce que on nous dit, il aurait dû être remplacé par l'amiral Gouton, et si l'amiral Gouton avait été là, ça ne se serait pas passé comme ça. J'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'aurait fait l'amiral Gouton. Mais supposons que l'amiral de Laborde ait décidé de ne pas obéir et de faire sortir la flotte. Qu'est-ce qui serait passé? Primo, que cette flotte, il y aurait peut-être quelques bateaux qui seraient arrivés à Alger, il y en aurait certainement très peu. Parce que, à ce moment-là, la Luftwaffe serait sortie, aurait bombardé tout ça, et aurait coulé à gogo tous les navires, avec de plus des pertes humaines considérables. Alors que si nos bateaux ont été sabordés, il n'y a pas eu de pertes humaines. D'autre part, c'était carrément dire que l'armistice était fini. C'était donc laisser aux Allemands toute espèce de latitude pour agir comme ils voudraient, sans aucune espèce de barrière. Bien. Alors, je ne suis pas sûr que c'était une très bonne solution. Et de toute façon, il est un fait certain, c'est que Hitler a été absolument furieux du sabordage de cette flotte, à tel point d'ailleurs qu'il a fait interner à Aix-en-Provence et l'amiral de Laborde qui commandait la flotte et l'amiral Marquis qui était préfet maritime. Par conséquent, il faut croire que ça n'était pas une victoire pour l'Allemagne que ce sabordage.
Alors André, malheureusement, là on est tenu par le temps.
Bien sûr.
Mais je pense que vous en avez dit...
Je pense que j'ai
beaucoup,
donné
sans pour autant nous
un
dire
échantillon.
Le centième de ce qui est dans ce livre. je crois que c'est, on peut dire la chose, c'est un document d'histoire. C'est un
absolument,
document historique.
C'est comme ça que je le conçois. D'ailleurs, c'est pas du tout un livre polémique. J'ai même très peu apparu moi-même et j'ai très peu donné mon avis. J'ai tâché d'expliquer et de montrer et de faire comprendre dans un domaine qui est très peu connu parce que la marine est un monde fermé. Ils n'ont pas l'habitude d'exposer leurs états d'âme, on les connaît mal, et par conséquent, j'ouvre, je crois, une fenêtre sur un aspect très peu connu de notre histoire et un aspect particulièrement dramatique.
Mais moi, je voudrais
remercier André Figueras, qui a fait là quelque chose qui manquait, qui est indispensable, et qui tiendra un rôle considérable dans l'histoire de ces années-là. C'est une illustration extraordinaire d'une période qui a été épouvantable, il faut bien dire.
Bien sûr, pour tout le monde.
Pour tout le monde. Moi, je l'ai vécu, parce que j'ai l'âge de l'avoir vécu.
Mais oui, moi aussi.
Mais vous aussi. Ça a été épouvantable.
Naturellement.
Et il est très très bon que l'on dise des choses comme celles que vous dites, d'autant plus que cela restaure la dignité et l'honneur de tous ces gens-là, de tous ces amiraux,
évidemment,
qui ont été des gens admirables,
absolument,
à tout point de vue.
Merci Pierre. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que j'ai eu la chance d'assister de loin, mais à la genèse de ce livre, et que j'ai vu comment André Figueras a pris à cœur ce sujet, et comment il en a fait vraiment une espèce de question personnelle.
Exact.
J'ai vraiment ressenti chez vous, André, une volonté de faire un livre qui était ce qu'on pourrait appeler un tombeau des amiraux, le mot qu'on employait dans le temps, une espèce d'hommage rendu à ces hommes qui, après avoir été élevés au plus haut des honneurs, parce que quand même un amiral, c'est quelque chose d'exceptionnel, bien sûr, ont été jetés dans les culs de basse-fosse et traités comme des malfaiteurs, alors que ce qu'on pouvait leur reprocher au maximum, c'était de s'être trompé, mais dans l'honneur, et que ça ne méritait pas ce traitement.
Sûrement pas. Et depuis, ils sont oubliés. On ne sait plus. On parle d'un tas de gens, mais pas d'eux.
Et pourtant... Merci André, en tout cas, d'être venu nous parler de ce livre, qui paraît prochainement. Alors j'indique qu'il s'appellera Onze Amiraux, il s'appelle Onze Amiraux dans l'ouragan de l'histoire, dans l'ouragan de l'histoire. Il est disponible aux éditions André Figueras, enfin chez André Figueras, boîte postale 575-75027 Paris CEDEX 01. Et il est vendu au prix de 150 francs ou 200 francs pour l'édition originale. Est-ce que ce sont des prix franco, André ?
Oh oui, pratiquement, pour les auditeurs, certainement.
Voilà. Alors 150 francs ou 200 francs pour l'édition originale, franco, vous indiquez simplement Radio Courtoisie.
Voilà.
Et ça vous économisera les frais de poste.
Absolument.
Pas désagréable. On va maintenant écouter, conformément à la tradition, la chronique de Bruno Maigret.
La question des banlieues devient aujourd'hui la question numéro un. Déjà, la loi Delebarre en faisait une priorité. Depuis, l'actualité l'a placée au premier plan. Mais il s'agit là d'un subterfuge, car le problème, ce ne sont pas les banlieues. Le problème, c'est bien l'immigration. La presse et le pouvoir censurent et désinforment. Ils parlent du malaise des jeunes dans les banlieues. Mais en réalité, il s'agit du désordre causé par les beurs dans les ghettos immigrés. Ce qui est très différent. À Sartrouville, à Vaux-en-Velin, ce sont des bandes ethniques qui se sont livrées à la violence, au pillage, à l'incendie, aux destructions. Et ce sont d'authentiques émeutes raciales qui se développent maintenant. Tous ces événements prouvent que nous pénétrons dans la phase violente de l'immigration. Et le pouvoir socialiste se trouve pris à son propre piège. Parce qu'il poursuit la politique utopique de l'intégration, il ne veut pas traiter ses crimes et ses délits comme tels. Il renonce à imposer l'ordre et le respect de la loi française. Il répond à la violence par le dialogue et abandonne les Français aux exactions maghrébines pour poursuivre ses chimères. Ce faisant, il normalise l'état d'anarchie, il légalise le désordre et crée les conditions de nouvelles explosions de plus en plus graves. La politique d'intégration du pouvoir conduit inexorablement la France à la guerre civile larvée.
Oui, bon sujet de chronique, puisque c'est également le sujet du numéro de Minute qui est paru ce matin. Banlieue, la guerre civile. Je ne veux pas avoir l'air de faire la publicité de Minute la France, mais on découvre quand même des choses assez ahurissantes.
On le comprendrait.
Oui, mais on découvre quand même des choses assez ahurissantes sur la façon dont les socialistes gèrent la crise des banlieues. Si c'est pas de la provocation, c'est quand même très 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 bien imité.
Ouais. Ouais.
Et sur le rôle des communistes aussi, je vous recommande de lire ce numéro. Je vous rappelle aussi que dans le même numéro, l'opération carte postale est lancée. Opération qui consiste à acheter pour 100 francs 5 cartes postales que vous pouvez envoyer à l'Élysée, au ministère de la Justice ou à qui vous plaira.
Et à l'Élysée, c'est en franchise postale.
Et alors à l'Élysée, vous n'avez même pas besoin de les affranchir, c'est gratuit.
Ouais.
Pour faire connaître votre sentiment sur la façon dont la justice est rendue en France, et les sommes que vous nous adresserez seront intégralement versées à un fonds destiné à supporter le paiement des énormes dommages et intérêts que la justice a accordé à des organisations considérées comme représentatives et qui, paraît-il, auraient été blessées par un propos du président Jean-Marie Le Pen, propos extorqués, tordus, mal interprétés et mal analysés. Voilà. Est-ce qu'il nous reste 2-3 minutes pour faire des annonces ? 2 minutes. Alors, je ne voudrais pas manquer d'annoncer la conférence débat organisée par le groupe Almer Le Grand, étudiant catholique de Saint-Nicolas. Le thème, c'est « Molière est-il hypocrite ?» Vendredi, vaste sujet, vendredi 5 avril à 19h à la Sorbonne, Amphi Michelet, 46 rue Saint-Jacques. Tout renseignement au 47 49 34 13.
Je rappelle, moi, l'exposition de Jean Marat des dessins à la mairie de Courbevoie, elle est prolongée jusqu'au 8 avril. C'est merveilleux, il faut y aller, nous dit un auditeur.
C'est une très bonne nouvelle. Je voudrais également annoncer que les amis du Nouvel Art slovène, c'est-à-dire les fans du groupe Leibach, On crée une association, c'est CS, boîte postale 10, 77 150 Lézigny. L'adhésion au club est de 100 francs qui permet de recevoir l'insigne et la carte d'adhérent et puis d'être tenu au courant des activités de ce groupe Laïbar qui est un groupe musical qui n'est pas sans intérêt, il s'en faut beaucoup.
Je rappelle les deux conférences du Centre Charlier. Conférence de Vladimir Dimitrievitch, à quoi sert un éditeur, le jeudi 4 avril à 19h30. Et la conférence de Jean-Claude Chabrier, les chrétiens d'Irak, le jeudi 11 avril à 19h30. Tous les deux à l'amphithéâtre de la FACO, 115 rue Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e, métro Port-Royal. Participation aux frais 30 francs, étudiants 20 francs.
Alors également, une conférence de François Brignot sur le thème 39-40 et la guerre du Golfe à la Domus Medica 60 Boulevard de la Tour Maubourg 75 007 Paris. C'est une conférence qui est organisée par l'association nationale Pétain-Verdun et qui aura lieu Candon
samedi. Ben,
à 18h30 samedi d'ailleurs.
Non, pas 18h30, à 15h.
Ah oui, pardon, oui, excusez-moi, à 15h, on m'avait mis annoncé ça dans le libre journal de 18h30. Donc, à 15h samedi, en présence du général Le Grognec, de André Figueras et de Maurice Bardèche. Participation aux frais, 30 francs. Je rappelle que c'est à la Domus Medica, 60 boulevard de la Tour Maubourg. Pentecôte 91, pardon.
Et je rappelle, on nous demande le titre du livre d'André Figueras sur le fisc, c'est Le roman noir du fisc, qu'on peut avoir à la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne.
Et puis Pentecôte 91 à Montmartre, la tradition catholique. Le pèlerinage de Pentecôte organisé par les pèlerinages de tradition les 18, 19 et 20 mai aura pour thème cette année la cité catholique par la sainteté de la famille. C'est vraiment de circonstance. Dans la tradition des pèlerinages, nous marcherons par dizaines de milliers de Chartres à Montmartre pour Notre-Dame et la foi dans la tradition de l'Église de toujours et dans la fidélité à Monseigneur Lefebvre. Les pèlerins partiront de Chartres après la messe célébrée à 7h45 dans les jardins des terrasses de l'évêché. Deux bivouacs sont prévus, etc. Alors, on en reparlera longuement, bien sûr. Pour les contacts, eh bien, c'est Association Pèlerinage de Tradition, 10 rue d'Édimbourg, 75 008 Paris, téléphone 42 93 57 25.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, sur 95,6 MHz. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct le mercredi 3 avril de 18 à 21h et en différé le jeudi 4 avril dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Patrick Simon. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. C'est grâce à ses auditeurs que vit Radio Courtoisie. Pour nous aider à demeurer libre, adhérer à notre association, la cotisation minimum annuelle est de 200 francs. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les deux cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix global franco de port de 130 francs ou 95 francs seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Notez Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Un dernier mot. On reçoit un message d'auditeur. Les excès de langage à l'égard de Mitterrand n'apporte pas grand-chose aux auditeurs de Radio Courtoisie, mais cela n'apporte rien à la radio et cela ne sert pas pour ouvrir des fréquences. Je répondrai en deux mots. La vérité n'est pas un excès de langage, et si il faut mentir pour avoir de nouvelles fréquences, ça ne sert à rien. Radio Courtoisie n'est pas une radio faite pour mentir. En tout cas, le journal du mercredi n'est pas un journal fait pour mentir, et je préférerais ne plus le faire que m'en servir pour diffuser les mêmes mensonges que les courtisans des autres radios et télévisions. Bonsoir, bonne semaine, que Dieu vous garde.
Le vent siffle les balles, donne le son du canon. Seul debout dans les rafales, se tiennent les bataillons. Seul debout dans les rafales, se tiennent les bataillons.
Nous allons donner l'antenne à Radio Asie. Les émissions de Radio Courtoisie reprendront à minuit. Voici le programme de la nuit sur Radio Courtoisie. De minuit à 1h30, les Amiraux, avec la chronique de Bruno Maigret. De 6h à 7h, les livres du jour, l'art littéraire, par Pierre de Bréritzen. Invité, Serge Guth, professeur à la Sorbonne. un littéraire et un musicologue parlent de Liszt. Rendez-vous donc à minuit sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national.